Radio Crest Braise, la petite lanterne.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur RKB, vous écoutez La Petite Lanterne. Aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière émission produite par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Dans cette émission, nous commencerons par le journal local et régional présenté par Bérénice Claude. Nous accueillerons ensuite Yann Le Tacon, porte-parole du collectif des médecins libéraux des Côtes d'Armor. Nous échangerons avec lui sur les revendications de leur collectif. Notre Zoom santé du jour, les maladies du rein. En début de semaine se tenait à Lannion une action de dépistage des maladies rénales par l'association Rhin 22. Nos deux reporters sont allés sur place. Karine Santine Lima viendra nous parler de la vision brésilienne de la mer dans la musique. Et enfin, pour clôturer l'émission, après l'imam de Lannion la semaine dernière, partons à la rencontre d'un des prêtres de Lannion, Patrick Salin, une personne du clergé bien intégrée dans la vie locale. Tout de suite, le journal. Le journal, présenté par les étudiants de l'IUT de Lannion. C'est avec vous, Bérénice Claude, que l'on commence l'émission. Bonjour Bérénice.
Bonjour Laure et bienvenue à tous et à toutes. Au sommaire aujourd'hui, l'opposition politique des Côtes d'Armor a décroché une mission d'information sur les EHPAD. Pendant 6 mois, 8 élus étudieront leurs finances, leurs infrastructures et leur gestion du personnel. Nous sommes allés à la rencontre d'un établissement concerné. Au conseil de Lannion Trégor Communauté, ce lundi 25 mars, une surtaxe pour les propriétaires de maisons non conformes a été annoncée par Cédric Sureau, chargé de l'assainissement. Nous ferons le point avec Cyprien Michel. Enfin, la tribu de Tachen, une association lannionnaise, propose des roulottes pour les femmes en errance. Cette association vient en aide aux jeunes depuis presque 10 ans et continue de multiplier ses initiatives, vous l'entendrez. Les alertes à répétition des directeurs d'EHPAD sur leurs finances ont enfin été entendues. En ce début de semaine, les conseillers départementaux ont annoncé la mise en place d'une mission permettant de faire l'état des lieux des EHPAD dans les Côtes d'Armor. Pendant 6 mois, 8 élus vont examiner plusieurs établissements pour faire un bilan de la situation. Reportage Mathieu Riolan.
La mission a pour objectif d'analyser les failles des EHPAD. Pour Michael Chevalier, président du groupe Union de la droite et du centre au département, cette étape est obligatoire pour avoir une vision claire de la situation dans les Côtes d'Armor.
Essayer de comprendre pourquoi certains EHPAD sont encore avec une présentation budgétaire favorable et pourquoi d'autres établissements effectivement sont dans des situations très dégradées, alors sans accuser personne, mais essayer de comprendre ce pourquoi. Et en analysant à la fois les aspects financiers, les aspects bâtimentaires et les aspects ressources humaines.
On va aller prendre le petit déjeuner.
Oui. À l'EHPAD de La Roche-Jodi, le directeur et les élus locaux alertent sur les difficultés économiques depuis l'été dernier. Pour le directeur de l'établissement, Éric Daricot, le problème est global.
La quasi-totalité, en fait, hein, des EHPAD du département et au-delà des EHPAD en France.
Ça fait maintenant 5 ans que l'EHPAD est en déséquilibre financier et le bilan a viré au rouge depuis 2021.
Les obligations qui nous sont faites, qui sont de bonnes choses, hein, qui sont des améliorations de rémunération, des augmentations, des choses comme ça, ça va dans le bon sens pour les professionnels, sauf qu'en face, ça ne nous est pas financé intégralement par l'État.
Avec ces difficultés budgétaires, c'est la qualité de la prise en charge des personnes âgées qui se dégrade. Le personnel est en sous-effectif et doit donc réduire le temps passé à aider chaque personne. Les soucis financiers ont également des répercussions sur les infrastructures.
Notre système d'appel malade, hein, ce qui permet aux résidents d'alerter, d'appeler quand ils ont un problème dans leur logement, il était un peu bancal, mais il fonctionnait encore l'année dernière. Donc on savait qu'il était à changer. Mais l'année dernière, décision avec les élus du CCAS de dire non, pas cette année, on ne peut pas. Conclusion, il est tombé en panne en fin d'année.
Selon le directeur, il faudrait 80 à 90 000 euros en plus chaque année pour combler le déficit. Mais face à l'inaction des pouvoirs publics, l'EHPAD, accompagné d'un collectif d'une cinquantaine d'autres communes, va lancer un recours contre l'État.
Parfait. Je rapproche.
Si le résultat de l'état des lieux est mauvais, il pourra soutenir les EHPAD dans leur recours contre l'État. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé une augmentation du personnel judiciaire d'ici 2027. Hier, le garde des Sceaux a détaillé la répartition des effectifs supplémentaires au sein de toutes les juridictions. En Bretagne, 173 postes devraient être créés, 58 magistrats vont être recrutés, ainsi que 61 greffiers et 54 attachés de justice. Nous en parlons au sommaire de ce journal. Il semblerait que la facture d'eau va augmenter. Bonjour Cyprien Michel, pouvez-vous nous en dire plus ?
Bonjour, effectivement, le 25 mars 2024, Cédric Soreau, en charge de l'assainissement pour Lannion Trégor Communauté, annoncé une surtaxe pour les habitants propriétaires de maisons non conformes. Une campagne d'information sera suivie par des mises en demeure pour les branchements les plus problématiques. Dans les Trégors, 50% du parc immobilier est concerné. Un professionnel dans l'assainissement m'a indiqué que beaucoup de personnes renoncent à effectuer les travaux au vu du montant qui peut facilement atteindre, selon lui, 10 à 12 000 euros. Cédric Sereau explique quant à lui ce chiffre par la méthodologie du décompte qui prend en compte également des non-conformités légères, style gouttière.
Mais de combien de pourcents l'augmentation sera-t-elle, Cyprien ?
Eh bien, Cédric Sereau va directement vous répondre.
400% pour l'assainissement non collectif et de 100% pour l'assainissement collectif.
Et donc ça équipe...
Alors, pour l'assainissement non collectif, la redevance est autour de 30 euros, c'est un forfait par personne, donc du coup ça fait 400% de 30 euros, c'est pas des sommes qui pourraient être plus élevées si on voulait vraiment contraindre les personnes, sauf que la loi nous bloque à 400%. En revanche, sur l'assainissement collectif, comme c'est lié à la consommation de la personne, puisque en fait c'est en fonction du cubage, 100% ça peut très vite être une somme importante. Et c'est pour ça qu'on a limité à 100%, même si la loi nous permet d'aller à 400%. Donc là, ça va dépendre de la consommation de chacun. Je ne peux pas donner de chiffres, mais sur une moyenne à 75 mètres cubes, ça peut être dans les 300 euros.
Alors, ce que ne précise pas Cédric Sereau, c'est que cette augmentation est par an. Les raisons invoquées pour cette augmentation sont écologiques. Effectivement, de nombreuses évacuations se terminent dans les champs ou sur les plages, ce qui peut entraîner de nombreux dégâts.
Merci Cyprien pour ces informations.
Il va falloir s'armer de patience en ce week-end prolongé.
S'armer de patience car la circulation risque d'être dense. À l'occasion du week-end de Pâques, beaucoup d'automobilistes vont prendre le volant avec une journée classée orange dans le sens des départs en Bretagne. Lundi, l'affaire se complique avec une circulation classée rouge dans le sens des retours et un trafic important entre la fin de matinée et le début de soirée. Les associations Tissalam et Emmaüs organisent ce soir une collecte de dons à la mosquée de Lannion à 19h à l'occasion de l'Iftar, rupture du jeûne des musulmans en période de Ramadan. De l'abri pour des femmes en errance, c'est ce que propose la tribu de Tachen à Lannion. Depuis 2015, cette association offre des formations de menuiserie et de bûcheronnage pour les jeunes en rupture. D'ici à la fin de l'année, ils estiment finir 4 roulottes prévues dans le projet financé par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Karine Santine est allée à la locomotive, l'espace où elles seront installées pour connaître cette initiative.
À l'endroit de l'ancienne déchetterie de Lannion, la première roulotte installée par la tribu de Tachin héberge Yuna, une jeune sans domicile fixe de 24 ans. L'habitat léger posé sur des pilotis a été restauré par les jeunes engagés dans l'association. Pour l'instant, elle est la seule à la locomotive, mais la tribu de Tachin compte en installer 4 autres d'ici à novembre. Celle-là construite à partir de zéro par les jeunes. Caroline Petit, une des responsables pour le projet, explique qu'ils feront la deuxième installation après l'aménagement des murs du local.
Il y en a une autre qui est finie là, on va pas la livrer tout de suite. Parce que tu vois, il faut qu'on aménage, c'est moche. Qu'on fasse du joli, alors on n'est pas tous d'accord, il faut juste qu'on se mette d'accord. Voilà. En septembre, il y en aura 2 autres. Et après septembre, on va commencer la construction de la dernière.
L'éducatrice explique que les ressources limitées de l'association exigent un ciblage du public. Les femmes sans domicile fixe ont été choisies car elles sont les plus vulnérables à la rue.
Et là, on s'est rendu compte, bon, elles sont nombreuses, moins nombreuses que les hommes, mais qu'elles avaient plus de pénalités à être en rue qu'un homme. On ne veut pas mettre une hiérarchie, c'est pas ce que je veux dire. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas commencer par une classe de public, des jeunes femmes qui sont dehors de 18 à 25 ans.
Coralie Dleck, une des jeunes en contrat d'engagement, a vécu cette réalité. Elle a participé à d'autres formations de la tribu auparavant et reconnaît l'importance de l'accueil pour les femmes.
On a besoin de secteurs comme ça où on peut avoir des femmes qui peuvent se sentir en sécurité. Et pour moi, avoir vécu en squat, avoir été tout seul en tant que femme dehors, c'est très compliqué au fait. On est une proie facile pour certains hommes. Puis en plus, là, mettre ça en œuvre avec notre asso où on est des personnes, des jeunes en errance, où on a tous connu cette misère de la rue et tout. Et là, avoir ce projet, que ça soit des jeunes qui ont été en errance, qui construisent cette roulotte pour accueillir... des gens comme ça, je me dis c'est génial. C'est montrer que même dans la galère, on peut se coller, on peut se serrer les coudes, on peut s'entraider. Et il faut montrer qu'avec ce monde difficile d'aujourd'hui, il y a toujours une âme de solidarité au fait.
La tribu de Tachen considère également l'idée d'installer une roulotte wagon qui pourrait recevoir des assistants sociaux pour faciliter l'accès des jeunes aux services dont ils pourraient avoir besoin.
C'était Bérénice Claude pour le journal de ce vendredi 29 mars. 26,50 €, c'est aujourd'hui le prix d'une consultation de base chez un généraliste. Tous les 5 ans, la Sécurité sociale négocie avec les syndicats des médecins une convention sur l'organisation des soins ainsi que des tarifs. Cette négociation entamée depuis l'hiver 2022 traîne en longueur car les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Nous accueillons aujourd'hui le porte-parole du collectif des médecins libéraux des Côtes d'Armor. Bonjour Monsieur Le Tacon.
Bonjour.
Votre collectif, créé en juin 2023 et regroupant 118 généralistes, a été lancé en marge de la deuxième phase des négociations. Pourquoi lancer un collectif non syndiqué alors que les négociations s'effectuent avec les syndicats ?
Parce que les syndicats, en fait... Ont du mal à faire avancer leur pion. La CPM reste dans ses retranchements. Et nous, les médecins de terrain, on a envie que, devant la détérioration du système de santé actuel, et libéral et hospitalier, on commence à être inquiet, très très inquiet. Voire même très en colère par rapport à tout ce qui est proposé. Et on a envie de faire valoir un petit peu nos besoins et de dire ce que nous, on pense de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les années à venir si on ne fait pas attention et si on ne fait rien.
Un point semble cristalliser les tensions, oui. Celle de la revalorisation des tarifs. Oui. La précédente convention de 2017 avait fixé le montant à 25 €. Oui. En novembre, une hausse de 1,50 € a été accordée. Oui. Certains syndicats veulent une revalorisation à 30 € à minima. Oui. En tant que collectif, quelles sont vos revendications sur les tarifs ?
Alors nous, c'est simple. On veut quelque chose. On veut une revalorisation à la hauteur de nos besoins. 26,50 €, c'était 1,50 €, accordé en attendant la deuxième partie des négociations. Hein. C'est vrai que vous avez entendu que certains médecins, certains syndicats réclamaient 50 €. Nous, ce qu'on veut, c'est une revalorisation à la hauteur de nos besoins dans nos cabinets. On veut rester aussi libre, on veut rester indépendant dans notre pratique médicale. 30 € c'est nettement insuffisant. 30 € c'est la revalorisation de l'inflation 2023. Mais ce qui ne prend pas en compte la revalorisation des 6 années précédentes.
Alors vous serez pour une revalorisation à 50 €?
Alors nous, si on calculait sur les inflations des 6 dernières années, il faudrait qu'on soit entre 38 et 40 € pour bien démarrer. Et puis nous, ce qu'on voudrait, c'est justement qu'on puisse investir dans notre outil de travail. On accueille des étudiants, mais on voudrait accueillir des infirmières pour des infirmières azalées, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou des infirmières IPA, des infirmières en pratique avancée. Et pour ça, il faut qu'on ait des cabinets qui puissent accueillir tout ce petit monde-là. Il faut des salles, il faut des et puis c'est des charges sociales en plus. Et clairement, 30 €, c'est pas possible.
Et donc du coup, pour revenir à la revalorisation à 50 €, donc cette demande avait partagé les syndicats.
Oui.
Pour les premiers, cela pourrait rendre la profession plus attrayante.
Bien sûr.
Pour les autres, ce serait contre-productif. Qu'est-ce qui, pour vous, freine cette hausse ?
Clairement, qu'est-ce qui freine cette hausse ? C'est en fait une volonté, on va dire, de nos décideurs politiques actuels qui ont décidé pour... faire des économies à tout va, hein. Je vous en entendais parler. Actuellement, c'est vu le déficit abyssal de la France, qui veulent tout simplement diminuer les dépenses de santé au détriment de la santé des gens, hein, de toute façon. Alors qu'il faudrait justement véritablement refaire un Ségur de la santé. Au niveau médical, au niveau des libéraux, au niveau de l'hôpital, pour essayer, j'ai perdu votre question.
Parce que je suis parti dans mon... Qu'est-ce qui pour vous freine cette hausse du coup de 50 €?
Tout simplement, c'est ce que je vous disais, c'est un gouvernement qui a d'autres idées. En fait, ils ont dans l'idée de faire un système à l'anglaise, avec des forfaits.
Et bien justement, en parlant de système à l'anglaise, donc parmi vos autres revendications, un accès équitable aux soins pour les patients, vous dénoncez un système de santé à deux vitesses, donc au modèle anglo-saxon.
Exactement.
Je me permets pour les auditeurs d'expliquer ce que c'est, un système de santé à deux vitesses, donc un système où certains seraient plus privilégiés et pourraient accéder à des soins plus rapidement.
Oui.
De plus en plus, des systèmes de téléconsultation directement en pharmacie sont mis en place. Est-ce que pour vous, cela peut être une solution pour assurer un accès aux soins équitable ?
Alors non, du tout.
Pourquoi ?
Un accès aux soins équitables, qu'est-ce que c'est qu'un soin ? Qu'est-ce que c'est qu'une consultation médicale dans un cabinet ? C'est une prise en compte du patient dans sa globalité. C'est pas seulement soigner son rhume, c'est pas seulement soigner sa conjonctivite, c'est soigner une consultation quand les patients viennent pour un rhume ou une conjonctivite. Souvent, dans un cabinet médical, on va sur autre chose, on découvre d'autres choses. On prend le patient dans sa globalité. Un patient, c'est pas seulement une conjonctivite, c'est aussi des problèmes psychologiques, c'est des problèmes sociaux, et c'est tout ça qu'on prend en compte. Donc une consultation, ça peut pas durer 5 minutes comme dans les téléconsultations, et ça peut pas durer 10 minutes comme dans des centres de soins non programmés où on va traiter la gastro, point barre. Nous, on va au-delà de tout ça.
Mais pour certaines personnes, la téléconsultation, ça peut être un moyen aussi de renouveler les ordonnances. Donc ça permet de pas surcharger les médecins. Est-ce que dans ce sens-là, ça pourrait être une solution ?
Ça peut être une solution à court terme, mais pas à long terme. Parce que renouveler un traitement, c'est bien, quand nous on renouvelle un traitement dans un cabinet, on va au-delà de ça aussi. Hein, on va essayer de voir comment se passe à la maison pour un diabète, le régime alimentaire, s'il marche suffisamment, s'il fait attention à ce qu'il fait dans son traitement. Donc ce que la consultation ne prend pas le temps de faire. Franchement, la consultation, la téléconsultation, la plupart du temps, ça débouche sur le lendemain ou le surlendemain, une autre consultation chez le médecin généraliste.
D'accord. Merci Yann Le Tacon.
Je vous en prie.
Avant le grand reportage de la semaine, petite pause musicale, on écoute Chen Chen du groupe cubain Buena Vista Social Club. C'était Chen Chen des Buena Vista Social Club. On est de retour dans la petite lanterne. Hier, nous avons abordé la prise en charge difficile de l'endométriose en France. Aujourd'hui, notre focus santé, les reins. Des organes souvent négligés par manque d'informations, mais essentiels au bon fonctionnement de notre corps, l'association France Rein 22 organisait ce mardi un dépistage gratuit à Lannion. Pourquoi y a-t-il encore autant de méconnaissances sur le sujet? Quel est le public concerné par les maladies rénales? Bérénice Claude et Axel Guillaume se sont rendus sur place.
Mardi 26 mars, centre hospitalier de Lannion. S'il y a foule ce matin, c'est parce que l'association France Rein 22 est attablée dans le hall du bâtiment afin de proposer des dépistages gratuits pour détecter les maladies rénales. Les raisons des venues sont variées. Antécédents familiaux.
Parce que ma belle-sœur qui est décédée d'un cancer du rein, donc elle n'avait aucun symptôme et quand on a ouvert, c'était déjà métastasé. Voilà, et j'ai un ami qui a été greffé.
Dépistage à titre préventif.
On s'est déjà fait dépister il y a 5 ans environ. Et donc, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est une maladie silencieuse, mais il vaut mieux se dépister.
Information par voie de presse.
C'est le seul dépistage que je trouve, que j'ai vu en presse en fait. Bah, donc du coup, effectivement, je viens. En fait, je crois que c'est le seul dépistage qu'on nous propose sur l'ensemble des maladies qui existent à nos âges, 64 ans. Donc je crois qu'il faut en profiter en fait. Quoi, voilà.
Depuis plus de 30 ans, l'association France Rein 22 s'engage contre les maladies rénales en multipliant différents types d'actions. Dépistage gratuit dans les hôpitaux, rencontre entre malades et professionnels de santé, ou plus récemment encore, plantation d'un arbre de vie à Lannion en hommage aux donneurs et leurs familles. Un moyen de sensibiliser le public à ces maladies silencieuses, bien souvent détectées trop tard. Dans les Côtes d'Armor, comme partout en France, un tiers de personnes qui souffrent d'une maladie rénale, le diagnostic est posé au dernier moment. Ces patients sont alors dialysés en urgence.
On met la bandelette, c'est la machine qui analyse. Les résultats sortent après ici, puis sur un ticket. Et donc on demande, c'est pour les statistiques, on demande la taille. Alors je vais demander votre taille.
C'est le cas de Pierre Rau, vice-président de l'association. Un rôle qui fait sens après qu'il ait lui-même été atteint par la maladie de Berger, une maladie rénale qui concerne environ 1% de la population mondiale, soit 5 millions de personnes concernées.
Mes reins se sont dégradés au fil des années. Ils sont arrivés qu'ils s'atrophiaient. Et donc j'ai été soigné longtemps pour de l'hypertension. J'ai été voir des cardiologues. Et en fait, mon médecin traitant ne m'a jamais orienté vers un néphrologue. Juste le jour où, alors que j'étais prêt à étouffer, tellement j'avais de l'eau dans les poumons. Donc suite à ça, j'ai été dialysé pendant 7 mois. Et j'ai eu la chance de trouver un rein il y a 29 ans maintenant. Et depuis 29 ans, le rein marche impeccable. J'ai eu sans doute une bonne compatibilité entre le greffon et moi-même, le greffé, mais je ne fais pas de régime. Par contre, j'ai une hygiène de vie qui est correcte et j'ai de la chance d'aucune complication de ce côté-là.
Mais alors, quels sont les signes qui peuvent laisser penser à une maladie rénale et surtout, quelles personnes sont concernées?
On a de la fatigue, on a de l'hypertension, mais on n'a pas de douleur. Souvent, les gens viennent nous voir, ils me disent « Ah ben, j'ai mal au rein ». En fait, quand on parle de mal au rein, c'est mal au dos. Parce que les reins, c'est sous les côtes et on n'a pas de douleur du tout. Ça vient par de la fatigue et de l'hypertension. Comme quoi, c'était il y a 30 ans de ça aussi, mais quelquefois que les généralistes, ils ont besoin d'être boostés un peu pour approfondir cette maladie ou orienter les gens vers des examens plus poussés.
On voit sur le bilan des urines, il n'y a pas de glucose, il y a un petit peu de sang, il y a des traces de protéines. Alors, dans ce cas-là, tout le reste est négatif, donc c'est bon. Mais quand il y a un petit peu de sang et une petite trace de protéines, on va conseiller plutôt de faire un bilan sanguin derrière, plus complet, en fait.
Alors, ça peut toucher tout le monde. Ça peut être, parce que ça peut être héréditaire. Ça peut venir par des médicaments, par exemple, qui peuvent attaquer le rein. Ceux qui ont du diabète, par exemple, il faut faire très attention parce que le diabète à fort taux, ça peut détériorer les reins aussi. Après, effectivement, il y a certains qui sont plus susceptibles à d'autres. Il y a l'hérédité aussi qui peut jouer. Des jeunes comme des moins jeunes. Malheureusement, on a des jeunes qui sont en dialyse. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'anciens parce que ce qui est un peu compréhensible dans la mesure où l'espérance de vie augmente.
Émile, costa-armoricain de 76 ans, fait peut-être partie des personnes touchées car les résultats viennent de tomber et tous ne sont pas positifs.
C'est relativement bon, sauf pour un paramètre, le paramètre de protéines que le rein devrait traiter, ne devrait pas laisser passer. Et là, il laisse passer un petit peu trop de protéines.
Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Vous avez un suivi à faire? Vous avez d'autres consultations à les faire?
Dans ces cas-là, il y a des examens complémentaires à faire, prise de sang, et information de son médecin généraliste pour qu'il décide ou pas de faire un traitement spécifique.
Et justement, l'un des traitements les plus connus et efficaces pour conserver au mieux la bonne santé de son ou de ses reins est la dialyse, un procédé complexe par lequel est passé Pierre et qui peut parfois être très fatigant.
Ici, quand on fait une dialyse, moi j'avais, vous voyez, au bout de la cicatrice, j'avais une artère et une veine de reliées ensemble pour avoir un débit de sang important. Alors là, le sang sortait là, il était restitué ici, dans l'avant-bras. Et puis, je ne sais plus combien de fois, je veux dire que le sang rentre et circule dans le sang pour être épuré, pour éliminer justement toutes les saloperies qu'il y a dans le sang, que le rein n'élimine pas. Et c'est fatigant, notamment pour le cœur. J'avais la chance à cette époque-là de très bien supporter la dialyse, ce qui fait que je dialysais l'après-midi. J'arrivais le soir, je me mangeais, je me couchais, le matin, j'étais au boulot. Bon, les premiers temps, il faut s'adapter avec les médicaments qui sont très lourds au tout départ, rétablir l'hygiène alimentaire et autres. Mais après, j'ai retrouvé une vie tout à fait normale.
Appliquons d'urgence le plan greffe. C'est le cri d'alarme du collectif de la transplantation rénale. Pour eux, les activités de greffe constituent un réel défi pour l'organisation des soins en France, avec des attentes fortes de la part des patients. Les chiffres révèlent que depuis la publication du plan en mars 2022, 77% des professionnels de santé considèrent qu'il n'y a eu aucune évolution positive en faveur des activités de greffe. Aujourd'hui, ils appellent à multiplier les actions pour répondre aux attentes des patients de demain.
Un long reportage disponible sur notre site internet rkb.bzh. Une dernière pause musicale, nous écoutons Sirene de la chanteuse italienne Levante.
Distanti, quanti metri servono a renderci tristi, ma noi siamo amanti. Sai ancora abbracciarmi? Ci pensi alla lista delle cose da rifare quando andremo avanti, quando andremo avanti. Mi porti sulla strada verso il mare, se va male resto a casa con te. E non è facile. Facciamo un bagno nella pioggia, nella pioggia, nella pioggia. Amore, dici sento le sirene, ma non è più come pensi, sono Ulisse all'albero.
Vous êtes bien sûr RKB, c'était Sirene de la chanteuse Levante. Et pour notre dernière chronique, un sujet familier aux Bretons, la mer. On va s'intéresser à comment cet élément naturel est présenté dans la musique populaire. Mais cette fois, nous partons outre-Atlantique avec vous, Karine.
Tout à fait, alors je vous invite en tant que Brésilienne à vous immerger vite fait dans notre représentation de la mer.
Bon, déjà on peut dire que la côte du pays est énorme puisque 54% de la population y habite, c'est bien ça?
Oui, alors sans surprise, la mer est une partie importante du quotidien de plusieurs Brésiliens. La pêche, par exemple, est l'occupation de plus d'1 million de personnes. Et à partir de ces grands rôles pratiques, la mer occupe également une place lyrique dans notre culture. Dorival Caymmi, compositeur de Salvador, a été un des plus habiles à enregistrer des chansons sur cette relation ambivalente. En 1954, il a sorti les disques « Canções Praieiras » et les 8 titres de cet album parlent de la vie à la côte. Dans la chanson « Omar », il chante la beauté et les dangers de la mer.
Petite traduction des paroles de la musique, la mer, quand elle se brise sur la plage, c'est magnifique, c'est magnifique. La mer, le pêcheur, quand il part, il ne sait jamais s'il va revenir, ni s'il va rester là.
Voilà, la mer est caractérielle, il faut l'observer et la respecter, et je crois que c'est une notion que les Bretons comprennent bien. En même temps, notre affection pour la mer se renforce grâce aux religions afro-brésiliennes. La reine de la mer, Iemanjá, est précisément la divinité la plus connue de ces religions. Le 2 février, le jour consacré à la déesse, des milliards de personnes se réunissent sur les plages pour offrir des cadeaux et faire les demandes à Iemanjá. Alors si d'un côté la mer est dangereuse et imprévisible, de l'autre on sait qui aller voir pour demander de la protection et à qui remercier pour les bonnes maries. Et plein d'artistes mentionnent la mer des eaux dans leurs œuvres.
Mais après tout, je crois que l'image la plus évoquée quand on pense au Brésil, c'est précisément celle d'une journée détendue sur une plage à Rio. Il me semble que c'est d'ailleurs l'une des musiques les plus connues du Brésil qui parle justement de cette sensation.
Ah oui, t'as raison. La célèbre chanson Garota de Ipanema est devenue un symbole de notre musique. Et la bossa nova, ce genre musical né à Rio, peint les portraits des plages qu'inspire à la tranquillité. Compositeurs comme Vinícius de Moraes nous amènent au paysage ensoleillé où on parle d'amour, on boit et on discute doucement. Et là, on retrouve souvent l'idée positive de la paresse. Ce n'est pas pour dire que les Brésiliens ne valorisent pas le travail, mais que le plus important, c'est d'avoir un moment de confort ou de contemplation. Être devant la mer inspire souvent ce sentiment, comme raconte Marília Medalha dans Targin et Tapuã.
E com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, ir sentindo a terra toda rodar.
Cette musique est vraiment très relaxante, Karine, mais n'est-ce pas une vision un peu romantique de cet endroit et éloignée de la réalité?
Et oui, c'est vrai que la plage est un espace démocratique, mais cela n'empêche pas des conflits entre les visiteurs des différentes classes sociales. Les habitants des périphéries de Rio, par exemple, sont à la zone nord de la ville, éloignée de la côte. Quand ils descendent pour aller à la plage, ils sont souvent persécutés par les habitants les plus riches de la zone sud et par la police. De l'autre côté, dans la ville des Recifs, les plus pauvres ont été installés aux estuaires. Dans cette zone de transition entre la mer et les rivières, Chico Science a commencé un mouvement musical appelé Mangue Beat. Le principe, c'est de mélanger les rythmes régionaux aux influences internationales, comme le rock, le hip-hop, en luttant contre la stagnation de la ville. Dans A Praieira, Chico parle d'une danse qui commence à la plage comme métaphore pour la rénovation de la pensée à Recife. Praieira, c'est un mot pour ce qui est propre de la plage, mais aussi désigne une révolution faite à Recife au 19e siècle.
Merci Karine pour cette chronique qui nous a fait voyager. À l'approche du week-end de Pâques, portrait de Patrick Salin, prêtre à Lannion. Il est arrivé il y a plus de 8 ans avec une particularité, il travaille, un choix motivé par l'ouverture aux autres, portrait Mathieu Riolan.
Très tôt, Patrick Salin a été plongé dans la chrétienté. C'est avec nostalgie qu'il se rappelle ses premiers liens avec la religion.
Je me souviens, enfant, j'allais à la messe avec mon grand-père. Et comme il était sourd comme un pot, il me demandait de lui ouvrir le carnet de chant à la page indiquée. Et donc c'était mon rôle. Et à la sortie de la messe, j'avais droit à 1 franc. Il était malin, le vieux. C'est un souvenir attendrissant. Et puis c'est aussi lui qui m'avait donné 5 francs quand j'avais su dire mon Notre Père.
C'est à peine majeur qu'il décide de devenir prêtre.
J'ai fait un séminaire en Bretagne, à Vannes, en pensant devenir prêtre en paroisse. Et en faisant mon service national, je suis allé en région parisienne. Et là, j'ai découvert la mission de France et une manière d'être prêtre en étant plongé dans les réalités du monde, par le travail professionnel notamment. Voilà. Et donc, ça a complètement déplacé le sujet. Et donc, j'ai redémarré un séminaire 2 ans après avec la mission de France et j'ai fait tout le parcours jusqu'en 1997 où j'étais ordonné prêtre. Donc, tu vois, je suis rentré en 83, j'étais ordonné en 97, 14 ans, bac plus 14.
Au départ, la mission de France a été créée pour s'adresser à un public non religieux. Mais Patrick Salin ne l'a pas pris comme ça. Avec un autre prêtre de Lannion, Dominique, ils ont décidé de prendre la mission de France comme un moyen d'apprendre des autres.
Dominique et moi, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup, tu vois. Donc si on est comme des vases pleins, on reçoit pas grand-chose parce qu'on est déjà plein. Donc on essaye d'être un peu vide et disponible, un peu présent, voilà.
En tant que cuisinier, il est aujourd'hui au chômage pour préparer sa reconversion professionnelle. Avec son ami Dominique, depuis leur arrivée à Lannion, ils ont lancé une grande colocation. À 8 dans la maison, c'est aussi un moyen pour eux de développer le contact social. Il se souvient surtout de ses soirées pendant la Covid.
Tous les soirs, on mangeait ensemble et on commençait par par un temps d'apéro un peu convivial, la bière, mais aussi des boissons, et puis on discutait, et les soirées n'en finissaient pas.
Et pourtant, il y avait une grande diversité. 3 chrétiens, un bouddhiste, un musulman, un protestant, un athée, et chacun s'écoutait. Cette ouverture pour un prêtre en a surpris plus d'un.
Je me souviens, à la sortie d'une messe, dans une église un peu rurale d'ici, à Cervelle, je célèbre la messe, et à la sortie, il y a 3 vieux qui montent vers l'autel, qui viennent vers moi. 3 anciens. On peut vous dire un mot ? Ils me disent, c'est vous l'infirmier ? Ah non, moi je suis l'autre, moi je suis le cuisinier. L'infirmier c'est Dominique, d'ailleurs il est aide-soignant. Et puis là, ok. Et puis il y en a un qui se tourne vers l'autre et qui dit, eh ben pourquoi pas, hein ? Et il lui tape sur l'épaule, pourquoi pas ?
À 60 ans, Patrick Salin est en train de faire mûrir un dernier projet, un dernier défi avant de prendre sa retraite. Il réfléchit à devenir auxiliaire de vie pour mettre en avant ses compétences d'accompagnement des personnes.
Un portrait signé Mathieu Riolan. C'est la fin de cette émission, mais aussi de notre intervention sur RKB. Depuis 2 semaines, nous, les étudiants et étudiantes en deuxième année de journalisme à l'IUT de Lannion, occupions le jeudi et le vendredi l'émission La Petite Lanterne. Un grand merci à RKB de nous avoir fait confiance. Merci à nos intervenants, Charlotte Desrouin, Nicolas Blanza, Maël Ozias de nous avoir accompagnés. Merci à Jean-Philippe Mériglier d'avoir assuré la technique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est l'heure pour nous de rendre l'antenne, mais restez sur RKB pour la suite des programmes.